Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et il est également 10h40 au Burundi, où la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza a certes échoué, mais la crise politique n'est pas pour autant terminée. L'opposition et la société civile continuent de contester la candidature du président sortant, un troisième mandat, candidature qu'elle juge anticonstitutionnelle. De nouvelles manifestations sont donc annoncées. D'ailleurs, en ce moment, des petits groupes d'opposants au président Nkurunziza tentent de se rassembler dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale. En tout cas, nombreux sont les Burundais qui disent avoir pris conscience des risques d'une poursuite de la mobilisation. Au moins 100 000 d'entre eux ont déjà fui le pays, terrorisés donc par ce climat préélectoral. D'autant que Pierre Nkurunziza a mis en garde ses opposants. Il n'a pas hésité à faire le lien entre les manifestants et les militaires qui ont tenté de le renverser. Un président qui semble donc plus que jamais déterminé à se présenter, à se maintenir au pouvoir. Alors, comment sortir de cette crise? Le léger report des élections évoquées hier par les autorités, suffira-t-il à faire tomber la tension? On en parlera évidemment durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vous continuez à nous poster vos messages sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, cet auditeur qui nous dit, même si Pierre Nkurunziza sort renforcé de la tentative de coup d'État, il demeure le principal problème de ce pays. L'avenir proche du Burundi est entre ses mains et c'est à lui de décider de ce qui est bon pour son pays et non de ce qui est bon pour lui-même. On va voir ce qu'en pense Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs des récits.
Vous êtes en région parisienne et déjà vous êtes très étonné, vous, par l'échec du coup d'État.
Mais je suis très étonné puisque le coup d'État est mené quand même par un général et non pas par un homme de troupe. L'armée burundaise a une vieille tradition de coup d'État depuis les indépendances. Comment ce général, n'ayant pas l'appui de ses camarades d'armes, a pu lancer un coup d'État, sachant qu'il courait à l'échec et il mettait en danger d'ailleurs des vies et surtout la démocratie dans ce pays.
Vous diriez que le général Guillaume Barré a fait preuve d'amateurisme en tentant de renverser Pierre Nkurunziza?
Mais il a complètement fait preuve d'amateurisme. Mais d'ailleurs, dans cette histoire, Juan Gomez, tout le monde fait preuve d'amateurisme. Le président de la République lui-même, RFI nous informe que beaucoup de Burundais fuient le pays. Alors, il sait qu'il y a eu une situation explosive. Il décide quand même de partir. Et son absence a créé une espèce de vide qui a fait que certains militaires se sont dit peut-être qu'on va en profiter et le peuple suivra.
Bon, oui, enfin, vous dites qu'il est parti. Il est parti la semaine dernière en Tanzanie pour participer à un sommet sur la crise burundaise.
Oui, oui, mais vous savez, je ne sais pas en partant qu'est-ce qu'il a laissé comme consigne au service de sécurité de son pays, mais je trouve que ce voyage, il avait peut-être un sens, ça je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que ça s'est fait de façon très amateuriste. C'est-à-dire que le Burundi, ce n'est pas un pays vaste, hein, c'est un petit pays, 10 millions d'habitants, donc je ne sais pas, en tout cas pour moi, soit il y a de l'amateurisme, mais surtout, je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu de manipulation quelque part? Qui manipule qui dans cette histoire?
Parce que c'est quand même où est-ce que le général Godefroy Guillaume Barré n'a pas été lui-même manipulé?
Oui, c'est la question que je me pose. C'est pour cela que je parle de manipulation et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce général parle, c'est-à-dire comment il a eu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on voit très bien, il n'a pas la radio nationale, il n'a pas la télé nationale, c'est dans une petite radio qu'on annonce. Voilà, tout ça, ça fait preuve d'amateurisme, d'improvisation et aujourd'hui, je me dis, il faut que l'opposition et la société civile se renforcent, deviennent encore de plus en plus fortes, parce que le pays court mais vraiment à la catastrophe.
Ça veut dire que il faut que les manifestations continuent.
Il faut que les manifestations continuent, il faut que l'opposition politique reprenne sa place dans l'échiquier national, et surtout, si le président Nkurunziza a fait preuve de lucidité, vous savez, Juan Gomez, des fois, aimer, c'est partir. S'il aime son pays, je pense que vu l'état actuel, la sage ce serait de dire, écoutez, je m'arrête là.
Oui.
Je
laisse mais pour l'instant, on le voit bien déterminé à maintenir sa candidature. L'élection présidentielle, je vous le rappelle, c'est dans un peu plus d'un mois. Elle est prévue le 26 juin. Pour l'instant, il n'est pas question de repousser la présidentielle. Il est plutôt question de repousser de quelques jours les élections législatives et locales qui doivent se dérouler dans un peu moins de 10 jours. Merci Didier de nous avoir appelé. Wallace, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Chibitoke, c'est dans le nord-ouest du Burundi. Je le signale, comme d'ailleurs tous les Burundais qui souhaitent s'exprimer dans cette émission, vous nous demandez d'utiliser un pseudonyme. Vous avez peur de parler sous votre véritable identité. Vous avez été déçu, vous, par l'échec du coup d'État.
Exactement, j'ai été, pas moi seul, mais toute la population, l'échec du putsch est tombé comme un coup de poignard au dos du peuple, surtout que Pierre Nkurunziza allait revenir au pouvoir.
Vous vous attendiez pas donc à l'échec de ce putsch?
Nous ne nous attendions pas à l'échec du putsch parce que la population s'est déjà levée, il venait de se passer à peu près 13 jours. On était dans la rue, mais les putschistes sont venus comme des... Tout le monde a lancé un ouf de soulagement. Ils les considéraient comme des sauveurs du peuple burundais. Mais tout à coup, ça a échoué. On ne sait pas à quel niveau, mais ça a échoué.
C'est vrai qu'on a assisté à des scènes de liesse à Bujumbura, à l'annonce du coup d'État, des milliers de personnes célébrant la chute de Pierre Nkurunziza. La fête a été de courte durée, puisqu'on connaît la suite des événements. Wallace, comment vous voyez maintenant l'avenir de votre pays? Comment vous envisagez les prochaines semaines?
Exactement, je vais répondre à cette question en disant que l'avenir de notre pays est vraiment incertain. Elle est incertaine, il est incertain pourquoi? Parce que nous ne voyons pas où nous allons exactement avec toujours le maintien ou la candidature de Nkurunziza aux élections à venir.
Mais vous attendez de la communauté internationale un geste fort? La communauté internationale qui, rappelons-le, multiplie les déclarations. Washington, par exemple, a prévenu, pas plus tard que vendredi soir, qu'un éventuel troisième mandat de Nkurunziza attiserait, ce sont les propos de la Maison-Blanche, attiserait l'instabilité politique du pays.
En fait, la seule chose que nous souhaitons, c'est que le parti au pouvoir puisse retirer la candidature. Si cette candidature est retirée, les manifestants vont cesser. Mais toute autre chose qui pourrait dégager Pierre Nkurunziza, paix en n'importe quel moyen ou le temps, l'essentiel est qu'il part.
Bon.
Ce que nous voulons, nous.
Merci Wallace de nous avoir appelé donc de Chibitoke, nord-ouest du Burundi. Michel, vous êtes à Paris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également burundaise et vous suivez évidemment de très près la situation dans votre pays.
Exactement.
On vous écoute.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de tout média laïque privé. On est désinformé. On est même en absence d'informations sûres. Il y a des représailles sur les manifestations. Il y a des rafts, il y a des fouilles de téléphones, smartphones abusives. Et les gens se font menacer dès qu'il y a une conversation contre le troisième mandat. Il y a il y a eu une attaque d'un hôpital privé. Nous sommes inquiets.
Ouais.
Nous sommes inquiets sur ce qui se passe dans notre pays.
Vous parliez des radios, effectivement, les radios privées qui avaient diffusé les messages des putschistes ont été attaquées par les forces pro-Nkurunziza. À l'heure actuelle, elles ne peuvent plus travailler, elles ne peuvent plus diffuser leur programme, c'est-à-dire qu'on a évidemment bien une population burundaise qui n'est informée que par la radio et la télévision nationale, aussi par RFI, notamment à Bujumbura. On sait que le patron de la plus importante radio indépendante du pays a fui, il est à l'étranger, nous dit-on, il y a plusieurs journalistes qui se cachent. Comment vous, Michel, vous qui êtes burundaise, comment vous voyez les prochaines semaines et comment peut-on aller dans un tel climat vers des élections apaisées?
Les prochaines semaines sont vraiment tendues. Il est urgent de rétablir la liberté d'expression, le respect de la Constitution, des accords d'Arusha. Donc ceci implique le report du calendrier électoral. C'est une condition sine qua non. Et surtout un retrait immédiat de toute candidature anticonstitutionnelle.
Ouais. Anticonstitutionnel, c'est ce que dit l'opposition, mais aussi la société civile, l'Église catholique, une partie de la communauté internationale. Ce n'est pas l'analyse de la Cour constitutionnelle qui, rappelons-le, a validé il y a un peu moins de deux semaines, la candidature de Pierre Kourounziza. Chacun a une lecture bien particulière de ce fameux article 96 de la Constitution. Merci Michel de nous avoir contacté. Godet, vous êtes à Pointe-Noire au Congo. Bonjour Godet.
Bonjour Juan.
Et vous dites que la jeunesse africaine observe ce qui se passe en ce moment au Burundi.
Exactement Juan, la jeunesse africaine observe ce qui se passe actuellement au Burundi, parce que ce n'est pas seulement une question du Burundi, mais c'est une question aujourd'hui qui concerne toute la jeunesse africaine, et prise de paix, et prise de justice sociale et de progrès. Nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, nous avons le même débat de changement de la Constitution. Notre président est arrivé au terme de ses deux mandats consécutifs et il veut tout simplement changer la Constitution pour avoir un troisième mandat. Donc ce n'est pas normal ces situations. Et ce qui se passe au Burundi nous concerne tous. Mmh. Et c'est pourquoi je voulais marquer ma solidarité au peuple burundais et aux autres peuples qui se battent pour faire en sorte que la liberté, la démocratie et la République justement puissent triompher.
Quelle est la marge de manœuvre, Godet, aujourd'hui, de l'opposition burundaise et de la société burundaise? On apprend... Il y a quelques minutes, on a appris qu'il y avait de nouvelles manifestations qui se préparaient en ce moment même. Il faut continuer à manifester ou pas ?
Absolument, Juan. La première chose que l'opposition devait faire, c'est aujourd'hui de s'organiser, de se structurer, de s'unir et de faire en sorte qu'ils puissent justement conduire son combat de la rue que mène le peuple burundais pour que, à terme, ils puissent faire entendre raison à ce dictateur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la communauté internationale doit exercer une pression très très forte pour obtenir les conditions d'un dialogue. Un dialogue qui va permettre de renégocier un calendrier électoral, mais en même temps d'amener ce président à ne plus se présenter, parce qu'il faut respecter la Constitution, oui. Il faut respecter les accords d'Arusha, sinon
et, on ne s'en sort pas. Effectivement, mais la Constitution est très claire. Elle dit que le président, le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Certes, ça fait maintenant 10 ans que Pierre Kourounziza est au pouvoir. Le problème, et c'est là où il y a tout le débat, c'est important de le rappeler, c'est qu'en 2005, Pierre Kourounziza, eh bien, il n'a pas été élu par le suffrage universel direct, il n'a pas été élu par la population, mais par le Parlement, donc au suffrage universel indirect. Ce qui fait dire aux partisans de Pierre Kourounziza, eh bien, l'article 96, le premier mandat, tout du moins, n'entre pas dans le cadre de cet article 96. Donc voilà, la bataille autour de cet article 96, bataille intellectuelle, risque de durer encore de nombreuses semaines. On a un coup de fil, je vous interromps, hein, merci de nous avoir appelé. On a Salim qui nous appelle de Bujumbura. Bonjour Salim.
Bonjour Juan.
Et vous avez dit à l'instant au standard, à l'équipe qui réceptionne nos appels, que vous avez l'intention de manifester cet après-midi.
Nous avons l'intention de le faire et nous sommes déjà en train de nous rassembler dans les rues. Moi, je suis par exemple ici chez moi à Kikobé, précisément dans la commune de ici à côté de Nyakabiga. Nous sommes en train de rassembler notre groupe et nous allons manifester. Nous sommes déterminés à le faire.
Ouais, mais en sachant qu'il peut y avoir des violences, on a vu la répression de la police burundaise lors des manifestations de la semaine dernière et de la semaine précédente, avec des morts et de nombreuses interpellations.
Nous n'avons pas peur de ces violences parce que c'est la police qui nous provoque. Nous, ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est le départ après le deuxième mandat du président de la République. Parce que nous, en tant que Burundais, nous savons ce que les accords d'Arusha nous ont apporté dans ce pays. Il y a une guerre civile qui s'est passée il y a une dizaine d'années, et là où les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Alors aujourd'hui, grâce à ces accords, nous disons que c'est notre seule chance qui est là, qui fait que les Burundais vont vivre en paix, tout en étant confiants de l'accord qui nous ont été amenés. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 présidents qui ont été à la tête du pays tous qui sont là et qui ont été parmi les signataires de ces accords d'Arusha, ils sont clairs sur les termes de mandat. Alors, moi, je ne comprends pas ce que notre cher président aujourd'hui résiste, alors qu'il voit que la violence est causée par les policiers, une partie de cette milice pro-gouvernementale continue à verser le sang des innocents. Ouais.
Les milices, vous faites référence à ces jeunes du parti présidentiel qui sont aux côtés des forces de sécurité pour réprimer les manifestants, ce sont les fameux Imbone Rakure qui commettent aujourd'hui des crimes, et d'ailleurs la population a peur de ces jeunes miliciens. Merci Salim de nous avoir appelé de Bujumbura. Cheikh, vous êtes à Ouagadougou au Burkina, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci. Mais la situation au Burundi nous rappelle à quelques exceptions près celle du Burkina, où nous avons également un chef d'État qui veut se maintenir au pouvoir. Nous pensons que l'échec du coup d'État est la preuve que la population, le peuple par lui-même, peut faire des choses. Parce que lorsqu'il y a récupération, il y a effectivement des risques d'échec.
Ça a été une erreur, selon vous, Cheikh, que l'armée, ou une partie de l'armée évidemment, ait voulu renverser le chef de l'État?
Tout à fait. Parce que c'est de la récupération politique, tout simplement. Ils auraient pu s'entendre, créer un front beaucoup plus solide avec les partis politiques et la population qui était sur le terrain pour réaliser effectivement une alternance sans forcément passer par un coup d'État. Et nous pensons aujourd'hui qu'il revient au peuple burundais de s'assumer dans sa plénitude à travers des manifestations très claires et déterminées. C'est vrai qu'il y a déjà eu des morts, il y en aura encore peut-être, mais il y a lieu vraiment de démontrer avec force au président burundais, à l'opinion nationale et internationale, que le président Nkurunziza doit partir du pouvoir à la fin de son mandat.
Ouais, en tout cas, il faut rappeler que cette tentative de coup d'État la semaine dernière a été condamnée par l'ensemble de la communauté internationale, même par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a condamné, je cite, la tentative de prise du pouvoir par des moyens illégaux, et le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des élections crédibles. Jean-Pierre, vous êtes à Paris, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Jean-Pierre, on vous écoute.
Je suis d'avis que je suis pas du tout d'accord qu'on prenne les armes pour régler un problème. Les coups d'État ne servent à rien dans les pays africains. C'est dommage. On détruit, on tue, et c'est les pauvres qui payent.
Ouais. Enfin, c'est dommage, et pourtant sur Facebook, on a Abdou Karim qui nous dit « La réussite du coup d'État, c'était la seule solution pour sortir le Burundi de la crise, vu que le président est en train d'entreprendre un coup d'État constitutionnel. »
Écoutez, moi je suis serviteur de Dieu, je ne veux pas. Dans un pays, il faut verser le sang, parce que c'est des innocents qui prennent le pot cassé.
Donc pas de coup d'État, pas de manifestation non plus, puisqu'elles sont réprimées dans la violence.
On peut manifester pacifiquement. Ici en France, j'ai jamais vu quand il y a des manifestations où on réprime avec des armes. Ouais,
d'accord, mais enfin là-bas, vous n'êtes pas sans savoir le contexte, et on voit bien comment la police réagit face aux manifestants, même une partie de l'armée, quoiqu'au départ, on a vu l'armée burundaise ne pas tirer sur les manifestants, contrairement à la police qui tirait à balles réelles. Merci beaucoup Jean-Pierre, je regarde la pendule, il nous reste à peine 45 secondes. Le temps de vous remercier, vous avez été une fois de plus très nombreux à souhaiter commenter l'actualité burundaise, on y revient. Reviendra évidemment dans les prochains jours, et on y reviendra tout au long de la journée avec notre correspondant sur place et l'envoyé spécial d'RFI, Sonia Rollet. Demain, ici même, on s'interrogera sur l'accord de paix signé à Bamako par le gouvernement malien, par des mouvements armés, mais en l'absence tout de même des principaux groupes du nord du Mali. Alors quelle portée peut avoir finalement cet accord? En tout cas sur le terrain, la tension est vive, puisqu'hier des combats ont une fois plus opposé les groupes pro-gouvernementaux à la rébellion près de Ménaka. 33 9 693 693 70, soyez nombreux. D'ici là, bonne journée à l'écoute des RFI.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.
Bonjour Claire Edon.